Bonsoir à tous et bienvenue à la station T. Se retrouver autour d'un feu avec des amis est un moment propice pour partager des histoires effrayantes, des légendes urbaines. Ces histoires sont toujours plus effrayantes quand elles ont soi-disant eu lieu dans votre propre ville ou votre village. Elles le sont encore plus quand celui qui vous la raconte l'a lui-même vécu. Installez-vous confortablement et profitez du feu, mes chers auditeurs. J'ai demandé à mon meilleur ami de me raconter la chose la plus effrayante qui lui soit arrivée. Une histoire de Saphir Lion 15. Nate et moi étions dans le chalet de ses parents en Ontario. Pour fêter le début de l'été, nous avions tous les deux pris une semaine de congé et prévu de passer 4 jours de vacances à faire de la randonnée, du vélo, du canoë et à profiter d'une pause dans nos vies trépidantes en ville. Honnêtement, je ne me souviens pas bien des vacances en elles-mêmes. C'était très amusant, bien sûr, mais nous avons fait tellement de choses identiques que c'est un peu flou. Quand je pense à ce voyage, la seule chose dont je me souvienne, c'est cette conversation. Probablement parce que je veux désespérément l'oublier. Nous avions terminé un dîner simple, mais savoureux, de hot dog et de chips. Nous voulions tous les deux des bières, mais nous avions épuisé ce que nous avions emporté avec nous. Il pleuvait, avec des coups de tonnerre occasionnels. Je trouvais que c'était paisible. Nous étions assis devant un feu de cheminée, en train de préparer un café. Il faisait nuit, et il était assez tard. Mais aucun de nous n'avait envie d'aller se coucher, probablement à cause du café. Nous avons donc fini par parler une bonne partie de la nuit. Les premières minutes de notre conversation n'avaient rien de remarquable. Mais d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, la conversation a tourné autour des animaux étranges que nous avions vus pendant le voyage. Nate m'a raconté comment, alors que nous étions en randonnée la veille, un serpent s'était glissé sur le sentier, probablement effrayé par nous. J'avais poussé un cri très peu viril et sauté d'un pied en l'air. J'ai rigolé et expliqué que j'avais peur des serpents parce que, quand j'avais 9 ans, le boa constrictor de mon frère s'était échappé de son terrarium et était sorti de sa chambre et avait mangé mon hamster. Mes parents se sont débarrassés du boa et ont obligé mon frère à s'excuser auprès de moi. Mais j'ai toujours eu peur des reptiles depuis. J'ai dit, sans exagérer, que le fait de surprendre cette créature en train d'avaler mon hamster vivant était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Nate a pris un air compatissant et m'a tendu un coquille du paquet que nous avions grignoté. Nous sommes restés silencieux pendant une minute, écoutant la pluie et le feu, quand j'ai posé la question. Quelle est la chose la plus effrayante qui te soit arrivée ? Nate a semblé se figer. Je me suis demandé pendant un moment s'il ne m'avait pas entendu. Puis j'ai remarqué que sa tasse de café tremblait violemment. Le café, heureusement tiède à ce moment-là, s'était répandu sur ses mains, sur la couverture, sur ses genoux. Nate ? Le son de ma voix l'a ramené à la réalité. Il a pris une grande inspiration et a remarqué que sa main et sa couverture étaient trempées de café. Il a froncé les sourcils et s'est levé en jurant contre le café renversé. « Je suis désolé, j'ai juste... »« Non, je suis désolé. Je ne savais pas que tu serais... »« Tu sais, figé comme ça. Tu n'as pas besoin de me le dire si tu ne veux pas. »« Non. » Il était si direct que ça m'a surpris. Il s'est débarrassé de la couverture tachée. C'était une couverture bon marché de toute façon. S'est essuyé la main et a rempli sa tasse de café à nouveau. Il est revenu s'asseoir sur sa chaise face à moi. Nous étions amis depuis des années, mais je ne l'avais jamais vu avoir l'air aussi grave. Ça fait des années que je n'y ai pas pensé. La chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Même si je le veux, je ne l'oublierai jamais. Tu veux en parler ? Non. Mais je le ferai quand même. J'en ai besoin. Rappelle-toi juste quelque chose pour moi. Je ne mente rien. Je ne pourrais pas, même si j'essayais. Ce n'est pas une histoire de fantôme qui est arrivée au facteur de l'ami, de la sœur, de mon frère ou quelque chose comme ça. Je ne la vante pas, ok ? J'ai hoché la tête. Malgré ses avertissements, mon intérêt avait triplé. Il a soupiré et a pris une longue gorgée de son café. Il s'est tourné et a fait face au feu. Il ne m'a pas regardé une seule fois pendant toute l'histoire. J'ai posé des questions et il a répondu à chacune d'entre elles. Mais il ne s'est jamais détourné du feu. J'avais 17 ans. Et je me sentais comme le roi du monde. Je venais de payer avec l'aide de mes parents une camionnette rouge d'occasion, mais jolie. L'une des plus jolies filles de mon école était ma petite amie. Je venais de recevoir une lettre d'acceptation à l'université où avait été mon père. Je pensais que les choses ne pouvaient pas aller mieux. Pour fêter ça, Sabrina, ma petite amie, notre amie Eiji et beaucoup d'autres de nos amis ont organisé une fête. Je me souviens pas vraiment, mais c'est là que j'ai entendu parler de l'ancien hôtel. Le Raindrop Inn.
Le Raindrop Inn ?
Ouais. C'était un vieil hôtel qui datait des années 20 ou 30. Personne ne connaissait l'histoire complète, mais la rumeur disait que le fondateur de la ville avait construit l'hôtel pour sa femme, et que c'était son rêve de vivre dans un hôtel. Le soir de l'ouverture, cependant, le fondateur a trouvé sa femme dans leur chambre, en train de batifoler avec un employé. Elle a crié lorsqu'elle a vu son mari, et elle s'est apparemment jetée du balcon. Le fondateur n'a plus jamais remis les pieds dans l'hôtel. Il l'a ensuite vendu au plus offrant. Il est resté ouvert pendant encore 20 ans. Pendant cette période, 18 personnes y sont mortes. La plupart d'entre elles se sont suicidées en sautant du balcon, comme la femme du fondateur. Une femme de chambre, qui a vu l'une d'entre elles sauter, dit que l'invité avait crié « Laissez-moi tranquille », juste avant de sauter du balcon. Mais quand la femme de chambre a vérifié, il n'y avait personne d'autre dans la chambre. Et les autres invités ? Ceux qui sont morts mais qui ne se sont pas suicidés ? Seulement 5 des invités morts ne l'ont pas dit, apparemment. Je ne me souviens pas des deux autres, mais il y avait un couple qui a été retrouvé attaché dans une baignoire pleine, tout habillé, avec une télévision branchée dans l'eau. L'autre était un garçon de 5 ans qui a juste disparu. Sa mère a dit à la police qu'elle avait mis son fils au lit, et qu'elle avait entendu un terrible crissement après avoir fermé la porte. Elle l'a décrit comme une sorte de couinement de plaisir. Et ça venait pas de son fils. Elle est revenue au courant, et il n'était plus là. Pas de corps, pas de sang, rien. Apparemment, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le propriétaire en a eu assez de mauvaise publicité, et il a fermé l'endroit. J'ai appris tout ça le soir de cette fête. Je n'y croyais pas. J'ai dit aux gars qu'ils avaient raconté une belle histoire de fantôme. Ils se sont mis sur la défensive et m'ont dit d'aller le voir par moi-même si je ne les croyais pas. Puis ils m'ont dit où le trouver. Tout le monde savait que c'était juste dans la forêt derrière le lycée. J'ai ri et nous avons continué à faire la fête. Mais j'avais gardé cette histoire dans ma tête. La nuit suivante, Sabrina était chez moi. On essayait de regarder un film, mais mon petit frère, Pete, ne voulait pas nous laisser tranquilles. Il n'arrêtait pas de dire que c'était son tour pour la télé, qu'il allait dire à maman si on ne lui donnait pas la télécommande. « Tu as un petit frère ?» J'ai hoché la tête. « Alors tu sais probablement comment ça se passe. » J'ai finalement jeté la télécommande sur le canapé, et je suis allé sur le porche avec Sabrina. On discutait. Elle proposait qu'on aille chez elle pour regarder le film. J'ai oublié de quoi on parlait exactement. Quoi qu'il en soit, ma mère sort de la maison et me dit qu'elle doit sortir pour quelques heures. Elle était vétérinaire et un trou du cul, ses mots, pas les miens, avait écrasé un chien. Elle m'a dit que j'étais en charge de la maison pendant ce temps, et a demandé à Sabrina si elle voulait être amenée à la maison. Elle a dit que non, qu'on allait terminer notre film. Maman m'a dit qu'elle rentrerait à 1h du matin. Elle m'a rappelé de surveiller Pete, et elle est partie. J'ai dit à Sabrina que si Pete allait être pénible et monopoliser la télé toute la nuit, alors je n'avais pas vraiment envie de rester à la maison. C'était un vendredi soir, et même le début de l'été. Je lui ai dit que nous devrions faire quelque chose d'excitant, quelque chose de cool. Elle m'a demandé ce que je voulais faire. À ce moment-là, il était 8h du soir, et plusieurs endroits étaient déjà fermés. J'ai réfléchi une seconde avant de me souvenir de la nuit précédente. Je lui ai demandé s'il avait entendu parler du Raindrop Inn. Étonnamment, elle n'en avait pas entendu parler. Je lui ai dit ce que les gars m'avaient dit la nuit précédente. Elle a écouté, mais elle a demandé quand j'avais fini pourquoi est-ce que j'en parlais. Et je lui ai dit que je voulais aller le voir. Elle s'est moquée de moi, trouvait ça très drôle. Je lui ai dit que j'étais sérieux. Si c'était aussi proche que les gars de la fête l'avaient dit, on pourrait aller faire l'aller-retour avant que ma mère ne rentre. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, puis a commencé à être excitée par l'idée. Elle a toujours eu une certaine fascination pour les légendes urbaines,
et je savais qu'il ne serait pas nécessaire de la convaincre d'aller dans un vieil hôtel. Et son visage s'est de nouveau affaissé.
Tu dois surveiller ton frère, tu te souviens? Il n'y a aucune chose qu'il ne dise pas à ta mère.
J'ai juré de mon souffle. Elle avait raison. Si Pete savait ce qu'on allait faire, il voudrait venir. Le gamin avait lu tous les livres de Goosebumps deux fois et aimait les trucs effrayants. S'il venait, il gâcherait tout. Et si on partait, il le dirait à ma mère. Alors j'ai une idée. Quand j'étais petit, mon père nous a fait collectionner, à Pete et moi, ces petites voitures Hot Wheels. J'ai continué ma collection même à l'adolescence, et j'en avais environ 300 à cette époque-là. Pete en avait moins de la moitié, et il était sérieusement jaloux de ma collection. Je l'avais même surpris dans ma chambre une ou deux fois en essayant de voler les modèles les plus impressionnants. J'ai dit à Sabrina que je savais quoi faire. Et je suis entré. Pete avait allumé la télévision sur une de ses chaînes pour enfants, et s'est énervé quand je l'ai mis sur pause. Mais il m'a écouté. Je lui ai dit que je lui donnerais 50 voitures de ma collection au choix, s'il ne disait pas à maman que Sabrina et moi sortions ensemble pour un moment. Il a accepté, mais a demandé où nous allions. Juste un endroit dont des amis de l'école m'ont parlé. Il semblait suspicieux, mais a acquiescé. Il s'est retourné ensuite vers la télévision et a baissé sa casquette de baseball rouge préférée jusqu'aux sourcils, signalant que la conversation était terminée. Je suis monté dans ma chambre pour prendre une lampe de poche et une veste. Quand je suis descendu, la télé était éteinte et Pete était parti. Je supposais qu'il était allé dans sa chambre et je suis retourné sous le porche. Sabrina était ennuyée que j'ai mis si longtemps, mais elle a souri et a dit qu'elle voulait partir. Je me suis donc dirigé vers ma camionnette et j'étais à mi-chemin d'aller quand Sabrina m'a dit de faire demi-tour. J'avais laissé la porte d'entrée ouverte. J'ai sorti ma clé de ma poche, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée avant de revenir à la camionnette. Il y avait à peine 5 minutes de trajet entre notre maison et le lycée. Nous nous avions perdu 10 minutes à rouler à la recherche de la vieille route non entretenue qui menait soi-disant au Raindrop. Finalement, j'ai garé ma camionnette et nous sommes tous les deux sortis. J'ai allumé la lampe de poche et nous avons fait le tour. Finalement, Sabrina l'a repéré au loin. Il était difficile de le remarquer de loin parce que beaucoup d'herbes avaient poussé entre les fissures, mais on voyait clairement un sentier qui y menait dans les bois. Nous nous sommes regardés et nous avons souri. Nous étions sur le point de commencer quand j'ai entendu un bruit comme une porte de voiture qui claque. Nous nous sommes tous les deux tournés vers mon camion, mais il n'y avait rien. Je me suis alors rappelé que je ne l'avais pas verrouillé et j'ai appuyé sur le bouton de mon porte-clés. Sabrina, plus impatiente que jamais, a attrapé mon bras et m'a tiré sur le chemin. Nous avons marché pendant environ 20 minutes avant d'y arriver. Nous nous sommes tous les deux figés lorsqu'il est apparu. Je ne pense pas qu'aucun de nous n'avait vraiment cru que c'était réel. Mais il était là. Il avait l'air d'avoir été beau autrefois. Le bâtiment était aux 3 étages et devait être très bien construit s'il tenait encore debout après 60 ans, dont 50 ans sans entretien. Pourtant, l'âge se voyait. Le bâtiment était étranglé par des centaines de lianes. Et chaque fenêtre était cassée ou n'avait pas de verre du tout. La couleur d'origine des murs était impossible à deviner, car le vent, la pluie et le temps les avaient transformés en un brun terreux. Il manquait de nombreuses tuiles au toit. Il y avait des fissures massives dans les murs, et le porche d'entrée s'affaissait. Pour couronner le tout, nous n'avions clairement pas été les premières personnes à visiter l'endroit. Des graffitis, écrits à la bombe de peinture orange fluo, avaient été peints sur plusieurs endroits vides des murs. N'entrez pas, fuyez, danger. Des trucs comme ça étaient écrits partout sur les murs. On aurait dû rentrer à la maison à ce moment-là. J'étais terrifié. Et en jugé par la façon dont elle me tenait la main, Sabrina l'était aussi. Mais on voulait quand même y aller. Peut-être que j'étais stupide ce soir-là. Peut-être que je voulais avoir l'air d'un dur devant ma petite amie. Je ne sais pas. Mais nous sommes entrés. L'hôtel était encore plus effrayant à l'intérieur. Au premier regard, j'ai pensé qu'il ressemblait plus à une vieille grange qu'à un vieil hôtel. Puis quand mes yeux se sont adaptés à l'obscurité, j'ai vu que oui, ça avait bien été un hôtel. Il y avait la réception, couverte de crottes de souris. Il y avait la sonnette du hall, si rouillée qu'elle ne sonnerait plus jamais. Le canapé à moitié rangé et la chaise renversée avaient été le coin salant du hall. Il y avait même un chariot à bagages enfui sous tant de toiles d'araignées poussiéreuses qu'on aurait dit qu'un rideau blanc transparent avait été drapé dessus. Par des trous dans le plafond, le clair de lune illuminait la pièce.
« Eh bien, c'est accueillant !»
a chuchoté Sabrina. Tu as peur ? J'ai chuchoté en retour, espérant qu'elle dirait oui pour que nous puissions partir.
Non,
a-t-elle répondu toujours en chuchotant. Je savais qu'elle mentait. On n'enfonce pas ses ongles dans l'épaule de quelqu'un si on est détendu.
Tu as peur ?
Non, j'ai menti.
Pourquoi est-ce qu'on chuchote ?
Je ne sais pas, a-t-elle dit en parlant normalement.
Tu veux essayer de monter à l'étage ?
En réalité, ce que je voulais, c'était sortir de là, foncer vers le camion, rentrer à la maison et arracher la télécommande de Pete. Mais je ne voulais pas que mes copines pensent que j'étais une mauviette. Alors j'ai essayé d'avoir l'air courageux et j'ai hoché la tête. Les escaliers étaient étonnamment en bon état, vu l'état du reste de l'hôtel. Nous avons dû éviter les toiles d'araignée qui pendaient du plafond de la cage d'escalier comme des serpentins de fête, mais nous n'avons pas eu de mal à atteindre l'étage suivant. C'est là que les choses sont devenues vraiment flippantes. La première chose que nous ayons vue en arrivant au deuxième étage de l'hôtel était une bosse au milieu du sol. Sabrina m'a jeté un coup d'œil et je me suis dirigé vers la masse. Je n'ai jeté qu'un seul coup d'œil avant de faire un bond en arrière avec dégoût. La masse à forme était un lapin. Ou plutôt, elle avait été un lapin. Il était mort. Et je n'avais pas besoin d'être un médecin pour voir ce qu'il avait tué. Il y avait un trou dans sa poitrine de la taille de mon poing. En 2 secondes, j'ai pu voir que tous les organes du lapin avaient disparu. Il n'y avait même pas de sang. Le lapin n'avait plus que la peau et les os. Je n'ai pas dit ça à Sabrina. J'ai juste dit que le lapin avait été tué par quelque chose, et qu'on devrait probablement partir. Elle était clairement effrayée par le lapin mort, même si elle ne savait pas à quel point il avait été mutilé. On aurait pu partir tout de suite si on n'avait pas entendu autre chose. Des bruits de pas. Nous nous sommes tous les deux figés, et nous nous sommes lentement retournés pour regarder la porte de la cage d'escalier. Quelqu'un montait les escaliers. J'ai ouvert la première porte que j'ai vue. Le verrou était si vieux qu'il est tombé quand j'ai ouvert la porte. J'ai en quelque sorte serré Sabrina contre moi, et je l'ai tiré avec moi dans la pièce. J'ai fermé la porte aussi silencieusement que possible, en espérant que ce qui montait les escaliers ne nous avait pas entendu dans le couloir. Nous avons tous les deux entendu la porte de la cage d'escalier s'ouvrir. On s'est regardé, et on a mis nos doigts sur nos lèvres. Je n'avais jamais vu les yeux de Sabrina aussi grands. Je crois que les miens étaient pareils. Nous avons écouté attentivement la chose qui avait monté les escaliers et qui a commencé à marcher lentement dans le hall. Je l'ai entendu s'arrêter devant ce qui devait être le cadavre du lapin. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais entendu un nouveau bruit. Il y avait des voix venant du couloir. Non, pas venant du couloir. Ces voix venaient de partout sur le sol. J'ai entouré Sabrina de mes bras pendant que nous écoutions. De quelque part est venu un crissement inhumain de plaisir, suivi par le cri d'un petit enfant. D'une salle de bain quelque part dans le couloir, il y avait des supplications et des cris, suivis d'une violente éclaboussure et du son inimitable de l'électricité. Une femme a crié « Laissez-moi tranquille », suivi d'une fenêtre qui se brise et d'un bruit sourd, lourd et lointain. Mon rythme cardiaque déjà marteau s'est accéléré quand j'ai réalisé ce que j'écoutais. Je me suis rappelé l'histoire de la fête, comment un enfant avait disparu, un couple avait été électrocuté, une femme avait sauté d'un balcon. Nous venions d'écouter ces gens mourir. Ces sons se sont finalement arrêtés, suivis de ce qui ressemblait à une forte inspiration provenant du couloir. J'ai alors remarqué que la pièce était froide, extrêmement froide, surtout pour une nuit de fin de mai. Il faisait de plus en plus froid. Comme si la source du froid se déplaçait dans le couloir. Il y a eu un cri soudain. J'étais tellement secoué que j'ai crié, Sabrina aussi. À ce moment-là, l'instinct a pris le dessus. J'ai oublié d'avoir l'air cool, je voulais juste sortir de là. J'ai attrapé la main de Sabrina, et j'ai foncé dans la porte avec mon épaule. Elle était si vieille que je l'ai fait tomber de ses gonds en courant. J'ai entrevu une chose blanche et informe. Je n'ai pas regardé plus longtemps. Et j'ai couru vers la porte de la cage d'escalier. Vu la vitesse à laquelle je courais, je suis étonné qu'aucun de nous ne soit blessé en dévalant les escaliers. Malgré ma panique, j'ai remarqué quelque chose dans le hall que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y avait un tas dans le coin. Une pile de corps mous et poilus. Ils avaient tous des trous. À ce moment-là, je ne voulais pas en voir plus. Tenant toujours la main de Sabrina, j'ai couru à travers le hall. J'ai volé par la porte d'entrée, et j'ai trébuché sur le porche. Nous avons tous deux atterri face contre terre sur le sol de la forêt. Je ne savais pas ou ne me souciais pas de savoir si j'étais blessé. Je me suis immédiatement relevé et griffonné à terre pour me frotter. Sabrina était à quelques pas devant moi, m'appelant à continuer de courir, à ne pas regarder en arrière. Des cris s'échappaient des fenêtres de l'hôtel. Des cris de douleur et de terreur. C'était toute la motivation dont j'avais besoin pour accélérer mon rythme. J'ai couru si vite cette nuit-là que je pense avoir battu quelques records olympiques. À la seconde, nous avons vu le camion. Nous avons tous les deux sauté dedans. J'ai tourné la clé et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Mon camion a dépassé deux fois les limites de vitesse et nous nous sommes dirigés vers ma maison. Quand l'hôtel a été hors de vue, j'ai ralenti et je me suis rangé sur le côté de la route. Nous avons pris un moment pour reprendre notre souffle. Sabrina pleurait. Elle avait eu tellement peur. Honnêtement, moi aussi. Je me suis demandé à quel point nous avions failli disparaître, mourir cette nuit-là. Nous sommes restés dans mon camion pendant un moment, essayant de nous ressaisir et de comprendre ce qui s'était passé. Finalement, nous nous sommes tous les deux sentis assez calmes pour rentrer chez moi. À ce moment-là, il était minuit et ma mère devait rentrer dans une heure. Je m'attendais à ce que Pete soit encore devant la télé, et je me suis souvenu que je devais encore lui donner les voitures qu'il voulait. À ce moment-là, j'étais prêt à lui donner la collection complète. Après cette nuit, les petites voitures me semblaient plus importantes. Sabrina est entrée en premier, pendant que j'ai garé la camionnette. Je suis entré, et j'ai vu qu'elle n'était plus là. Je l'ai entendue à l'étage, et je suis allé me préparer quelque chose à grignoter. Je venais de sortir des chips et de la salsa, quand je l'ai entendue descendre les escaliers en courant. Je me suis retourné avec le plateau de chips en souriant, puis je regardais son visage. C'est alors que j'ai vu à quel point elle était effrayée. Elle m'a regardé dans les yeux et a pratiquement crié « Où est ton frère ?» Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Pete s'était caché à l'arrière de mon camion. Il avait entendu ce que j'avais dit sous le porche à propos de l'hôtel et il était parti avec nous. Il avait ouvert la porte d'entrée. Il avait claqué la porte de mon camion et il avait fait le bruit des pas que nous avions entendus dans les escaliers. Et c'est lui qui avait crié. Je l'ai laissé là-bas. Pendant quelques minutes, il est resté silencieux. Je me suis assis, abasourdi. Je ne savais pas quoi dire. Finalement, il a repris la parole. Une semaine plus tard, je suis retourné à cet hôtel. Je ne sais pas pourquoi. Pour tourner la page, peut-être. En arrivant, je l'ai vu sur le porche. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas que ce soit là. Mais c'était là. La casquette de baseball rouge de Pete. Il a pris une profonde inspiration et m'a finalement regardé à nouveau. Et c'est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Nous n'avons pas parlé pendant le reste de la nuit. Le feu brûlait toujours. Et la pluie battait toujours. Mais ce n'était plus paisible. Et c'est sur cette histoire que nous nous quittons. Si vous souhaitez pouvoir écouter d'autres histoires effrayantes et supporter le podcast, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez cet épisode. Vous pouvez aussi laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant de nous revoir dans un prochain épisode, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, méfiez-vous des ombres.